Alors, tout récemment, des scientifiques, dont Stephen Hawking, ont signé une lettre pour mettre en garde l'humanité contre les dangers des armes autonomes, aussi connues sous le nom de robots tueurs. On parle ici d'armes activées non pas par l'humain, mais par des ordinateurs. Les signataires redoutent, entre autres, une course à l'armement dans ce domaine-là, d'autant que les robots tueurs sont à nos portes, disent-ils, en raison des récentes percées en intelligence artificielle. Pour parler de ce sujet, j'ai rencontré à son bureau Oshua Bengio, professeur au département d'informatique de l'Université de Montréal, spécialiste en intelligence artificielle et signataire de la lettre. Bonjour, Monsieur Bengio.
Bonjour, Marie-France.
Vous avez récemment signé une lettre, comme environ un millier d'autres experts, dont certains sont très connus, dans le but de lancer un cri d'alarme au sujet des dérives potentielles des robots tueurs. C'est bien ça?
Tout à fait.
Pourquoi?
Parce que je pense que c'est important qu'on réfléchisse aux utilisations potentiellement néfastes de ces techniques et qu'on y réfléchisse collectivement et pas seulement les scientifiques de leur côté. Ça m'inquiète parce que j'aimerais que les travaux qu'on fait dans mon domaine servent pour le bien et non pas pour le mal.
Alors, quelle est la différence entre les armes qui existent actuellement, comme par exemple les drones, les missiles, et ce que l'on appelle les robots tueurs?
La différence, c'est qu'actuellement, il y a un humain qui doit appuyer sur la gâchette. Même s'il y a déjà pas mal d'intelligence dans les armes actuelles, on va passer une étape où le robot ou la machine pourra décider d'agir sans attendre le OK d'un humain. On a déjà les bases scientifiques pour construire ce genre de robot-là. Il y a des éléments techniques qui manquent au niveau de l'efficacité de calcul et tout ça, mais on peut facilement imaginer que d'ici 2, 3, 4, 5 ans, il pourrait y avoir ce genre de système. Il y a eu une sorte de révolution dans le domaine de l'intelligence artificielle, entre autres grâce à des progrès dans ce qu'on appelle l'apprentissage profond, ou en anglais « deep learning », qui ont permis d'améliorer beaucoup les capacités de l'ordinateur à interpréter le contenu d'une image ou d'une vidéo, de reconnaître des visages, par exemple, de savoir qui est dans l'image, de savoir quels objets sont présents dans l'image. Aujourd'hui, pour certains bancs d'essai, ces systèmes-là peuvent faire presque aussi bien que les humains. Et ça, il y a juste 2, 3, 4 ans, c'était impensable. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a réussi à faire fonctionner ce qu'on appelle des algorithmes d'apprentissage, c'est-à-dire que l'ordinateur apprend une tâche par l'exemple. Et en fait, ça ne se limite pas seulement à la reconnaissance d'objets dans des images ou de visages. C'est utilisé, par exemple, pour la reconnaissance de la parole et maintenant de plus en plus dans l'interprétation du langage naturel pour comprendre ce que les gens disent ou écrivent. Ce qui est important derrière le deep learning et l'apprentissage en général, c'est la capacité à généraliser à des nouvelles situations. C'est ça, c'est là qu'est l'intelligence, c'est là qu'est notre intelligence aussi, notre capacité à faire face à des nouvelles situations qui ne sont pas exactement les mêmes que ce qu'on a vu auparavant.
Donc la différence, c'est qu'avant, on programmait les ordinateurs pour faire quelque chose de très précis. Maintenant, on les programme encore, mais ils sont capables d'aller au-delà de ça. Est-ce que c'est un peu ça?
C'est un peu ça. On peut voir ça comme un genre de métaprogrammation. Au lieu de faire, comme ça se faisait de manière classique dans les années 80-90, des systèmes d'intelligence artificielle où on donne la connaissance à l'ordinateur directement, ce qu'on programme, c'est pas comment reconnaître un visage, c'est comment apprendre. Donc, les recettes, les algorithmes sur lesquels on travaille, c'est les mécanismes d'apprentissage. Et ensuite, l'ordinateur peut utiliser ça pour apprendre à résoudre une tâche.
Mais qu'est-ce que ça ferait, le deep learning, dans le secteur militaire?
Ce que ça ferait, c'est que ça permettrait à ces robots de prendre des décisions. Est-ce que c'est le bon moment de tuer? Est-ce que c'est la bonne personne que j'ai en face de moi? Vers où je dois me diriger pour m'approcher de ma cible? Donc, c'est le genre de questions auxquelles ces systèmes-là pourraient répondre. De la même manière qu'on est en train aujourd'hui de mettre au point des systèmes pour conduire des voitures autonomes. C'est pas encore sur les routes, mais ça va l'être dans très, très peu, là, dans moins d'un an. Donc, si on peut construire des voitures autonomes qui peuvent se conduire elles-mêmes grâce à la vision informatique et toutes sortes de méthodes d'intelligence artificielle, ben, on peut faire la même chose avec des armes, des robots, des drones, etc. On peut imaginer qu'on donnerait à l'ordinateur une localisation, une image d'un endroit où vous voudriez aller, de personnes qui pourraient être des cibles, et que ça servirait au robot à identifier qu'il est rendu au bon endroit ou qu'il est rendu près de la bonne personne. Donc, identifier les personnes, ben, ça peut servir à leur faire du mal. Ça peut aussi servir à les aider si elles sont dans le trouble. Mais là, c'est ce qui nous inquiète, c'est comment on pourrait utiliser ça pour tuer.
Qu'est-ce qu'on sait des programmes de recherche pour créer des robots tueurs? Qui mène ces recherches?
Moi, personnellement, je connais pas ce qui se passe derrière les murs des labos de recherche du militaire américain. Sauf que ce que je sais, c'est qu'une grande partie de la recherche dans le domaine de l'intelligence artificielle aux États-Unis, elle est financée par les organismes militaires ou paramilitaires américains. Et évidemment, ces recherches-là n'ont pas comme but immédiat de construire ce genre d'armes, mais disons qu'il y a une partie du travail qui sert à faire un transfert technologique vers les chercheurs du côté militaire. Donc, ils ont accès à ces technologies-là. Puis, il n'y a pas de raison de croire que les Russes ou les Chinois ne sont pas en train d'explorer ce même genre de choses.
Ces robots tueurs, vous les imaginez comment?
Il y a beaucoup de possibilités, mais les vrais robots, là, on en est encore loin. Par contre, des petits drones qui peuvent se déplacer, là, comme ce que les gens achètent, là, pour jouer, ce serait pas difficile à mettre au point. Les missiles, ça va trop vite, d'après moi, pour que ce genre de technologie-là puisse être utilisée. Mais par contre, ce serait plutôt des choses qui se déplacent plus lentement, là, pour avoir le temps de voir un humain puis de tirer dessus ou quelque chose comme ça.
Quel est l'avantage d'utiliser ce genre de technologie-là?
Selon moi, l'avantage, c'est que la machine peut directement prendre sa décision sans qu'il y ait d'interférence. Si c'est télécommandé, mais on peut bloquer la communication. Il y a un délai de communication. Donc là, il n'y a pas toutes ces limitations-là. Et puis évidemment, à plus long terme, et ce qui est encore plus épeurant, c'est que on peut démultiplier le nombre de ces armes-là sans avoir besoin d'augmenter le nombre des militaires qui sont derrière pour les contrôler.
Stephen Hawking, le grand scientifique, redoute, lui, qu'un jour l'homme soit dépassé par les machines, que l'intelligence artificielle surpasse celle de l'homme et que ça donne lieu à la fin de la race humaine, ni plus ni moins. En gros, si je résume ses propos, c'est un peu ça. Vous, vous en pensez quoi?
Je pense que c'est une préoccupation légitime et je comprends sa crainte. En même temps, en ce qui me concerne, vu l'état de la technologie actuelle, c'est très très loin de nous cette possibilité-là, au point qu'on pourrait parler de science-fiction. En fait, on surestime l'intelligence des ordinateurs parce qu'on les regarde faire une tâche en particulier. Mais en réalité, les chercheurs comme moi qui travaillent dans le domaine, quotidiennement, ce qu'on voit, c'est plutôt que les ordinateurs sont très stupides. Et même avec toutes les recherches qu'on fait, on se bat tous les jours pour gagner un petit peu de terrain. Mais par rapport à l'intelligence des humains, par rapport à leur capacité de résoudre une vaste gamme de problèmes, on est très loin. Les ordinateurs qu'on a aujourd'hui qui font des choses qui nous impressionnent, comme la reconnaissance des visages dans les images, c'est parce qu'on les a entraînés sur des centaines de millions d'exemples, alors qu'un enfant de 2 ans, on a vu peut-être quelques dizaines. Alors l'enfant a été capable d'apprendre de manière beaucoup plus riche et puissante, et donc on a encore beaucoup de progrès à faire.
Donc, on est encore loin d'un robot ou enfin d'une machine qui surpasserait l'intelligence humaine.
On en est tellement loin que c'est difficile de l'envisager. On peut l'espérer, on peut le rêver, mais c'est à peu près là où on en est. Personnellement, j'ai l'impression qu'on ça arrivera peut-être jamais, dans le sens qu'on va peut-être construire des ordinateurs qui auront une intelligence comparable à celle de l'humain. Ils auront peut-être accès à beaucoup plus de données que nous, mais ce ne sera pas des super intelligences comme certains peuvent l'imaginer. La discussion qu'on a est un peu prématurée. Elle est surtout motivée par les craintes primales, disons, qu'on a face à l'idée d'une intelligence artificielle comme on pourrait imaginer un extraterrestre ou un animal, une espèce qui deviendrait très intelligente puis qui voudrait évidemment prendre le dessus sur nous comme nous, on s'imaginerait prendre le dessus sur d'autres. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'intelligence et égo ou désir de survie, c'est deux choses différentes. Donc, une machine pourrait être très intelligente et ne pas avoir plus de personnalité ou d'égo qu'un toaster. C'est qu'on s'imagine les ordinateurs du futur comme on les voit dans les films de science-fiction, mais ce sera probablement pas comme ça.
Monsieur Benjou, merci beaucoup.
Merci à vous.
Les propos rassurants, d'une certaine manière, de Yoshua Benjo, professeur titulaire au département d'informatique à l'Université de Montréal et spécialiste en intelligence artificielle. Vous êtes à l'écoute des Années-Lumière sur ICI Radio-Canada Première.